La première communication que j'avais, pour laquelle j'avais pris un engagement, c'est celle concernant la cité d'affaires Nogent-Baltard. Lors du conseil municipal du 23 janvier dernier, je vous informais des démarches précontentieuses et contentieuses d'un certain nombre de requérants à l'encontre de 5 permis de construire déposés par la société FH dans le cadre du projet cité d'affaires Nogent-Baltard. Aujourd'hui, je poursuis mon travail de communication et devant vous, mais aussi vis-à-vis des Nogentais, je fais cette démarche pour délivrer un point précis des procédures contentieuses en cours et vous informer des perspectives d'évolution de ce dossier. Alors, le premier point est la situation juridique. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 novembre 2010, des requérants au nombre de 9 ont demandé l'annulation des délibérations du conseil municipal 10-170 et 10-171 du 18 octobre 2010 relative à l'approbation du bilan de la concertation et le dossier de déclaration de projet pour la réalisation de travaux d'aménagement du pôle multimodal Nogent-Baltard. Ce dossier de déclaration de projet valait mise en compatibilité du POS après enquête publique. Enquête publique qui avait été jugée par le commissaire enquêteur valable. Depuis, des mémoires ont été échangées, mais le recours reste pendant. Il convient également de noter qu'un recours en référé suspension contre cette délibération a fait l'objet d'une ordonnance de rejet par le tribunal administratif le 23 novembre 2010. 5 des 6 permis de construire de la société EFAGE ont fait l'objet d'un recours contentieux de 30 requérants qui s'est soldé par une ordonnance de rejet du tribunal administratif de Melun en date du 4 mai 2012 pour irrecevabilité. Cette ordonnance a été motivée en raison de l'absence de production par les requérants des documents attaqués malgré une demande de régularisation du tribunal. Les requérants disposent d'un délai de 2 mois pour former un appel devant la Cour administrative d'appel de Paris à compter de la notification de l'ordonnance. Il convient de noter, par contre, qu'un recours en référé suspension contre ces mêmes permis de construire avait déjà été rejeté par une ordonnance du TA du 1er février 2012. En résumé, sur 4 recours, 3 ont déjà été rejetés par le tribunal administratif. Nous entrons maintenant dans la période d'appel vis-à-vis de la dernière décision du tribunal administratif. Alors, les perspectives, très rapidement. Les discussions annoncées lors de la communication du 23 janvier 2012 ont bien eu lieu et se poursuivent. Elles ont permis une évolution du projet, notamment en matière de logement, avec, pour conséquence prévisible, une diminution des recettes pour la commune et le conseil général liée à la fiscalité de l'urbanisme. Je tiens à vous rappeler aussi un autre point important, c'est que concernant des permis qui pourraient être des permis modificatifs tenant compte des discussions qui ont eu lieu, il se trouve que la réforme sur les surfaces de plancher est applicable depuis le 1er mars 2012. Elle touchera donc les permis de construire modificatifs, ce qui veut dire que nous nous retrouverons dans une requalification des surfaces, puisque la chaune et la chauve ont disparu, et que ce sont maintenant les surfaces de plancher qui sont prises en compte. La commune reste donc déterminée, vous l'avez compris, à faire aboutir ce projet, qui aura des effets forcément bénéfiques sur le paysage urbain, l'emploi, l'activité économique, les commerces, et en matière de recettes fiscales, et les discussions, bien sûr, en cours. Une présentation du projet amendé vous sera effectuée lors du conseil municipal du 9 juillet prochain. Ça aussi, j'en prends l'engagement, après une réunion d'échange avec nos partenaires. En tout état de cause, les recours contre ce projet nous ont fait perdre beaucoup de temps et aujourd'hui, la date de commencement des travaux la plus réaliste serait la fin du premier semestre 2013. Voilà ce que je voulais vous déclarer, sans ouvrir bien sûr un quelconque débat. C'est la position actualisée dans ce contentieux. Et j'espère que un certain nombre de réalités et de réalisme présideront à la suite de ces événements. Ça, c'était la première communication. La deuxième que je souhaitais que nous fassions, Monsieur David, c'est une communication là aussi sur l'urbanisme. Je vous laisse prendre la parole.
Bien, Monsieur le maire, je voudrais faire une communication à l'ensemble de mes collègues sur un point sur l'avancement du PLU et la mise en place de la majoration de 30% des droits à construire. Alors, en ce qui concerne le PLU, vous savez que l'élaboration du PLU est dans sa phase de diagnostic. Un premier document a été produit par le cabinet d'études. Il nous a été remis il y a quelques semaines. Toutefois, des modifications ont été demandées au prestataire de la ville, qui est le groupement Citadia. Des éléments complémentaires tels que l'évolution du Grand Paris et l'évolution du schéma directeur de la région parisienne Île-de-France seront revus. Alors, le Citadia, que nous rencontrons maintenant régulièrement, doit nous remettre ce document corrigé, si je puis dire, courant juillet. Et donc, le diagnostic définitif sera présenté à l'ensemble des membres du conseil municipal au mois de septembre et préalablement un comité de pilotage,
d'une réunion exceptionnelle,
exactement.
C'est-à-dire sans public, ce sera
exactement.
Une réunion de travail de l'ensemble du conseil municipal.
Ce sera le comité de pilotage qui sera élargi
à l'ensemble
des
membres.
Alors, deuxièmement, je voudrais vous parler de la mise en place de la majoration de 30% du droit à construire. En mars dernier, le Parlement votait une loi instituant sur la majorité du territoire français la majoration de 30% des droits à construire. Les collectivités territoriales dotées de la compétence urbanisme, ce qui est le cas pour nos gens, ont la possibilité de s'opposer pour toute ou partie de leur territoire à l'application de ce dispositif. Pour cela, il est nécessaire au préalable de préparer une note d'information à la population et de la mettre à la disposition du public. Il y a un processus très particulier et très strict. Ensuite, le Conseil municipal, avant la date butoir du 23 décembre 2012, votera un projet de délibération fixant la position de la municipalité vis-à-vis de ce dispositif. Alors, le planning prévu est le suivant. Le vote d'une délibération du Conseil municipal également le 9 juillet, comme a retenu M. le maire, fixant les modalités de l'information publique. Deuxièmement, une information publique qui débutera mi-septembre 2012 et le vote de la délibération du Conseil municipal qui aura lieu donc au plus tard, au mois de décembre 2012, définissant la position. Voilà. Merci.
Merci. Donc, vous avez compris que ce dispositif nécessite à la fois une étude qui permettra de mesurer son impact sur les différentes zones qui sont contenues dans le plan d'occupation des sols. Et ensuite, nous présenterons les conclusions et, au niveau du conseil municipal en réunion de travail. Et puis, nous le mettrons, non pas à l'enquête publique, parce que la loi ne parle pas d'enquête publique, mais parle de consultation de la population, ce qui veut dire que nous trouverons un moyen de faire quelque chose qui ressemble à une enquête publique, mais qui permettra de consulter un maximum de personnes. Et mon intention, c'est d'avoir aussi en relais l'ensemble des conseils de quartier pour qu'ils puissent aussi se prononcer sur ce dispositif. Alors, je ne vous dirai pas à titre personnel, et Jean-Paul David ne le fera pas non plus, ce que nous pensons de ce dispositif. Il sera temps, le moment venu, d'en discuter et pour chacun d'entre nous de faire valoir sa position. Deux ou trois autres communications que devait nous faire Bernard Rasquin et que Véronique Delannay va faire en lieu et place.
Bonsoir. Alors, c'est la cour pédestre de Nogent-Baltard. La cour pédestre Nogent-Baltard, organisée par l'UAI Nogent, en partenariat avec la ville, s'est déroulée dans d'excellentes conditions météorologiques et de participation dimanche 13 mai dernier. Nous avons retrouvé cette année la fameuse descente dans le parc de la Maison des Artistes, si prisée des 300 concurrents de cette épreuve. D'excellentes performances ont été réalisées, notamment par deux athlètes de notre ville, jumelles, Boleslavkiev. qui ont remporté la victoire dans leur catégorie. Comme il y a 2 ans, l'animation sur le stade était assurée par le Big Bang de Siegburg, qui a également offert un concert aux Nogentais le samedi matin au kiosque de l'Europe. Le succès de cette manifestation sportive a été obtenu avec l'aide précieuse des services des sports, des services techniques, de la police municipale et du comité de jumelage, ainsi que de nombreux bénévoles de l'UAI, du club Beauté Plaisance et du quadrille de Nogent. L'efficacité de la synergie entre les services municipaux et les associations nogentaises, qu'elles soient sportives, sociales ou culturelles, n'est manifestement plus à démontrer dans la réussite d'un événement comme la Nogent Baltard. C'est un travail d'équipe effectué dans la bonne humeur et la convivialité qui est la clé du succès d'une telle entreprise. Que tous les participants, organisateurs et athlètes en soient remerciés et rendez-vous à l'année prochaine, le dimanche 12 mai 2013, pour la 5e édition de ce défi Nogentais. Voilà, donc c'est très sportif là. Événement sportif Stade en Fête. Alors là, c'était la 2e édition de l'événement sportif Stade en Fête, impulsé par Monsieur le maire, qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions aussi et de participation samedi 12 mai dernier, de 14h à 18h. Le succès de cette manifestation organisée par le service des sports a cette année encore été obtenu avec l'aide précieuse d'une 12aine d'associations sportives nogentaises. Ainsi, de belles animations pédagogiques participatives ont été réalisées, notamment dans des disciplines innovantes comme le roller. Environ 300 familles ont ainsi pu profiter de cette fête des sports, notamment pour découvrir le stade sous la lune Alain Mimoun et ses nombreux équipements sportifs. Ceci dans la bonne humeur et la convivialité qui est la signature du sport pour tous. L'efficacité du rôle fédérateur du service des sports auprès des associations sportives nogentaises favorise donc de manière significative la mise en place d'événements sportifs gratuits pour tous. Que toutes les associations sportives, organisateurs et services fêtes et cérémonies soient remerciées pour cette réussite partagée avec la population et rendez-vous à l'année prochaine. Donc là, ça sera le samedi 11 mai 2013 pour la 3e édition de Stade en Fête.
Très bien. Et pour terminer, une soirée très réussie, la soirée des talents.
Soirée des talents.
Qui s'est déroulée le samedi 12 mai récemment.
Voilà.
Ouais.
Alors, c'était la première édition de l'événement culturel Soirée des Talents. Elle s'est déroulée dans d'excellentes conditions le samedi 12 mai dernier à la Seine Watteau. Le succès de cette manifestation impulsée organisée par le pôle jeunesse dans une salle comble a été obtenu avec l'aide précieuse d'une 12aine de jeunes talents des différents quartiers de Nogent. L'objectif était de promouvoir de jeunes talents et de les mettre en scène lors d'une soirée spectacle autour de la musique, du chant, de la danse, on a même eu de la lecture. Environ 400 personnes ont ainsi pu profiter de cette fête des talents dans la bonne humeur et la convivialité sous l'œil bienveillant de Monsieur le maire et de ses collaborateurs. L'efficacité du rôle fédérateur du pôle jeunesse auprès des jeunes collégiens favorise donc de manière significative la mise en place d'événements culturels gratuits pour tous. Que tous les jeunes talents, les organisateurs et les services municipaux ainsi que la MJC soient remerciés pour cette réussite partagée avec la population et rendez-vous à l'année prochaine.
Très bien. Donc avant d'enchaîner sur une autre communication, puisque nous sommes amenés à préciser un certain nombre de points qui apparaissent périodiquement dans un quotidien départemental qui se fait le relais complaisant d'un certain nombre de critiques, voire de mauvaises querelles ou de fausses polémiques, je voudrais en parler d'une nouvelle que j'ai découverte cet après-midi. Il paraissait, sur un site que nous connaissons bien à Nogent, il apparaissait que l'ordre du jour du conseil municipal était absent du site de la ville. Ce qui est totalement faux, puisque je l'ai vu, moi, personnellement, le jour où il fallait qu'il soit sur le site. Et puis, il y a un commentaire d'un de nos collègues disant que dorénavant, les conseillers municipaux ne reçoivent plus que d'énormes dossiers papier. Alors, je voulais simplement préciser une chose, c'est que nous avons décidé de continuer à envoyer les dossiers du conseil municipal sous forme papier, tout en indiquant une adresse où vous pouvez sortir l'ensemble des dossiers du conseil municipal avec, bien sûr, comme nom d'utilisateur, le nom du conseiller municipal et un mot de passe qui vous a été donné. Nous sommes dans une période intermédiaire avant celle qui consistera à ne plus envoyer de documents papier, mais bien d'envoyer un DVD plus le mot de passe, ce qui permettra de ne plus avoir à distribuer du papier aux conseillers municipaux. Donc rien n'a changé, bien au contraire, nous avançons dans le processus qui a été retenu et je comprends pas ce type de remarque qui n'est pas cohérent et surtout aussi qui ne peut pas ignorer les décisions qui ont été prises et qui sont en train d'être mises en application. Alors la dernière fantaisie vient des pavés granit utilisés pour l'aménagement des abords du secteur de la Petite Italie. Si je m'écoutais, je ne ferais aucune mise au point dans la mesure où nous n'avons pas à justifier ce type de décision qui est passé dans les structures et dans les organes habilités du conseil municipal. Je pense aux réunions d'appel d'offres, aux réunions dans lesquelles un compte-rendu est fait lorsque nous ouvrons des plis et nous analysons des offres. Il n'empêche qu'on ne peut pas entendre et voir écrit dans un quotidien local des choses comme celles que j'ai vues par deux fois. Et donc, je voulais rappeler un certain nombre de points. Or, l'architecture de l'ensemble immobilier de la Petite Italie s'inspire, comme vous le savez, de celle que l'on retrouve dans la région de Ferrières et du Val-Nur, qui sont des villes jumelées avec Nogent. Le maître d'œuvre désigné par la ville pour concevoir les aménagements urbains situés aux abords de ces nouvelles réalisations, entre parenthèses une vingtaine de logements, a recherché un matériau noble dont les coloris seraient en harmonie avec les façades colorées de la Petite Italie. Le choix avec les architectes s'est donc porté sur un pavé en granit jaune tacheté, parfaitement adapté à l'harmonie générale et à l'ambiance souhaitée dans cet aménagement au cœur de notre ville. C'est donc ce matériau que vous avez sous les yeux qui vient d'être posé, donc il n'est pas terminé. C'est donc ce matériau qui a été intégré au cahier des charges qui a permis d'engager une consultation d'entreprise en vue de l'attribution du marché de travaux. Bien évidemment, afin d'être conforme au code des marchés publics, aucune prescription n'a été indiquée concernant la provenance géographique des matériaux, ce qui serait discriminatoire et anticoncurrentiel et par conséquent contraire aux règles élémentaires des marchés publics. C'est ainsi que la communauté d'agglomération, pour un autre projet de la vallée de la Marne, a procédé pour l'aménagement du port et de la promenade de l'île de Beauté. Les entreprises qui ont répondu à notre consultation ont été jugées sur 3 critères notés sur 20 points, valeur technique 7 points, prix 8 points, délai de réalisation 5 points. Afin de proposer leurs meilleures offres, les entreprises doivent attacher une attention particulière au prix puisque celui-ci représente 40% de la note totale. C'est ainsi que les entreprises recherchent, comme à l'habitude, sur tous les marchés que nous passons, les fournisseurs proposant les meilleures conditions, sans remettre en cause la qualité des produits sur laquelle eux-mêmes s'engagent au niveau de la garantie. Notre projet de Petite Italie prévoit un appareillage très précis en CERS. Les CERS, c'est la façon dont on pose ce type de pavé, qui est en fait une technique utilisée notamment en Italie, et qui ne date pas d'aujourd'hui puisqu'elle date de l'Empire romain et qui permet de ne pas avoir, disons, des faiblesses dans l'utilisation de ces pavés dans la mesure où lorsqu'on roule dessus, on ne les prend jamais perpendiculairement, ils sont toujours pris en tangentiel. Donc les CERS, c'est ce que vous voyez. Ces CERS nécessitent 4 modules de pavés différents. 7 sur 7, 8 sur 8, 9 sur 9 et 10 sur 10 en 8 cm de hauteur, d'épaisseur sur les trottoirs et en 10 cm d'épaisseur sur la chaussée. Ce que vous voyez ici. Les producteurs européens, France notamment et Portugal, sont moins équipés que les producteurs chinois pour fabriquer des modules non standards, ce qui entraîne des prix plus élevés. Je vais vous donner les correspondances. L'écart du prix moyen entre le granit chinois et le granit portugais est de 40% et de 52% entre le granit chinois et le granit français le moins cher. Pour notre projet de Petite Italie, qui représente une surface d'un peu moins de 700 m², les écarts de prix des fournitures sont les suivants. Sachant que je tiens à rappeler que nous n'avons pas eu à prendre une position sur le prix des pavés, mais bien sur la proposition de l'entreprise de pavage. Le pavé chinois, prix de fourniture 45 € environ le mètre carré, pavé portugais 63 €, le pavé français-breton un peu moins de 69 € le mètre carré, et le pavé français des Vosges de 76 € le mètre carré. Je vous donnerai ces documents tout de suite après. Ce qui fait que pour les différences de prix par rapport au pavé dit chinois, puisqu'il vient de Chine, portugais 12 000 euros de différence, le breton 16 000 et le pavé français-vosgien 21 000. La différence de prix en simple fourniture entre le granit chinois et le granit français le moins cher est donc d'environ 19 000 euros TTC. Dans notre marché, le pavé est vendu fourni et posé à un prix moyen qui est de 139 € hors taxe le mètre carré, ce qui représente un montant global de 96 000 euros hors taxe pour un peu moins de 700 m². La part de la fourniture de pavé représente donc 32% du poste pavé, les 68% restants correspondant au coût de la main-d'œuvre, qui n'est pas chinoise là, mais qui est française, et qui a travaillé sur ce projet globalement, comme elle a l'habitude de le faire. Enfin, le montant global du lot voirie, dont on parle là, globalement, est de 288 374 euros hors taxe, et par conséquent, la part de fourniture des pavés, 31 184, ne représente que 10% du marché. Le granit jaune choisi pour la petite Italie est relativement rare en France et donc plus coûteux, surtout lorsqu'il est commandé en petite quantité. Il est plus répandu au Portugal, mais ces dernières années, il s'avère, selon le paveur, que la qualité est hétérogène et donc peu fiable. Un certain nombre de sinistres sont actuellement en cours dans un certain nombre de villes d'ailleurs voisines avec ce type de granit portugais en raison de sa porosité, de sa friabilité, notamment en cas de gel. À ce jour, aucun problème de ce type n'est à déplorer sur la qualité qui nous a été proposée par le paveur. Pardon. Donc, par conséquent, aujourd'hui, les choses sont claires. Un marché a été passé. Ce marché correspond au budget que nous avions inscrit dans nos comptes. Et je dois avouer que quand on veut vraiment déclencher une polémique, on utilise tous les arguments, y compris de comparer le prix, la différence à la sculpture, parce que l'autre, nous ne la payons pas, à la sculpture de M. Ponticelli, qui est une personnalité qui est arrivée ici au moment de la guerre de 14-18 et qui doit être honorée en tant que poilu de 14-18. Comparer le prix des pavés à une statue, c'est mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Dans un sens, nous sommes dans l'art et la culture, et de l'autre côté, nous sommes dans l'aménagement urbain. Que cela plaise ou non à ceux qui ont l'habitude de ricaner lorsqu'on leur dit des choses qui nous semblent normales. Alors, puisqu'on veut faire un procès au maire et à la ville, je voudrais vous rappeler que le métro, le tramway de Rennes a été fait avec du pavé chinois, que la place principale de Toulouse a été faite, et pourtant ce sont des régions où il y a du granit, a été fait avec du pavé chinois. La ville de Villiers a fait des aménagements avec du pavé chinois. La ville de Torcy a fait des aménagements avec du pavé chinois. Et la ville de Vincennes a fait, elle s'est distinguée avec du pavé venant des Indes. Bien. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est simplement que nous sommes, si nous voulons privilégier les fabricants français, il faut d'abord payer plus cher, mais surtout aussi, peut-être, retenir ce qu'une des propositions du président Sarkozy dans sa campagne électorale avait proposé, à savoir faire mettre en place une priorité européenne, c'est-à-dire en fait favoriser les entreprises européennes dans les appels d'offres, ce qui n'est pas le cas. Quand il a voulu lancer la taxe carbone, je me rappelle le tintamarre qu'on a entendu, et quand il a annoncé la TVA sur les produits importés, je me rappelle aussi le tintamarre que cela a fait. Nous ne sommes pas là pour travailler en marge des lois et des réglementations. Et nous sommes là pour passer des commandes d'un marché avec des caractéristiques, et nous ne pouvons pas obliger le fournisseur à choisir tel produit ou tel autre, puisque c'est lui qui garantit les matières premières qu'il met en œuvre. Donc voilà la seule chose que je pouvais dire sur cette opération qui a fait parler beaucoup de personnes, mais qui, pour moi, entre dans le jeu de tous les marchés que nous passons et qui respectent les règles strictes les règles de passation de marché après mise en concurrence. Donc voilà. Autre point, j'avais une autre communication et je crois que je vais m'arrêter là. Ah oui, mais vous l'aurez dans votre document, du document qu'on va vous distribuer. Nous avons eu un problème assez sérieux au stade, puisque dans la nuit du 17 au 18 mai, vers 3 heures du matin, des individus se sont introduits dans le stade et ont sectionné les câbles enterrés d'alimentation des projecteurs dans 4 chambres de distribution, et cela dans le but, bien sûr, de récupérer les métaux et le cuivre. Il se trouve que la police municipale est intervenu suffisamment tôt pour qu'il se sauve, mais il n'empêche que les dégradations étaient bien avancées, puisque la plupart des câbles étaient sectionnés en vue d'être volés. Donc je voulais simplement vous en parler et vous dire que, d'ailleurs, Brie-sur-Marne, 2 jours avant, au stade, s'était retrouvé avec le même type de dégradation, mais là, dans ce cas-là, dans le cas de Brie, ils ont réellement enlevé les câbles qui étaient dans les caniveaux du stade à Brie-sur-Marne. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter dans les communications, et je vais demander qu'on vous distribue l'ensemble des textes concernant ces communications pour que vous puissiez les avoir avec vous. Je vais passer donc maintenant à l'appel pour le conseil municipal de ce soir, qui a pour sujet principal le compte administratif que ma collègue Karine Renouille va vous présenter. Donc, monsieur Martin présent, monsieur Delman présent, monsieur Fontaine absent, pouvoir, monsieur Martin, madame Thomé présente, monsieur David présent, madame Delaney, madame Unzer, madame Letouzet, madame Rinine absente, pouvoir, madame Thomé, monsieur Echen absent, pouvoir, monsieur David, monsieur Hir, pouvoir, madame Renouille, monsieur Hippolito, monsieur Rasquin, pouvoir, madame Matruchot, madame Nataf, pouvoir, monsieur De Grassa, madame Gastine, madame Matruchot, monsieur Nicolas, il devait arriver, madame Renoux, madame Martineau, monsieur Pereira, madame Osadzoff, monsieur De Grassa, madame Martine Fontaine, pouvoir à madame Gastine, monsieur Arasi absent, monsieur Arasi m'a fait part de son absence tout à l'heure par un mail, madame Monchamp, madame Debecker présente, je vais lui arriver. Monsieur Gilles présent. Madame Éloin présente. Madame Éloin est présente. D'accord. Monsieur Devin, pouvoir, monsieur Gilles. Monsieur Sajot présent. Monsieur Jeb. Monsieur Mastrojani. Madame Lavin. Pas de. Normalement, monsieur Mastrojani donnait un pouvoir à monsieur Jeb. Voilà. Très bien. Donc je vais demander à Madame Martineau si elle accepte d'être secrétaire de séance. Ça vous va? D'accord. Et comme modérateur, bien sûr, Monsieur Delman. Donc nous avions le PV du 4 juillet. Vous pouvez nous enlever cette image-là, ce serait pas mal. Depuis, ça a été réparé, hein, je tiens à vous le dire. Et nous avons bien sûr fait une démarche auprès du procureur de la République et une démarche auprès de nos assurances. Donc 4 juillet et 12 septembre en matière de procès-verbal, est-ce que vous avez des remarques sur les deux procès-verbaux? Celui du 4 juillet, déjà. Il n'y a pas de remarques. Merci. Pour le 12 septembre, y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Donc je vous remercie. Et je passe donc la parole à Karine Renouille pour le premier rapport qui est à l'ordre du jour sur le compte administratif.
Là, il s'agit d'une décision modificative sur le budget général. Ça n'est pas un budget supplémentaire. Comme vous le verrez, nous ajoutons des recettes exceptionnelles pour 52 000 euros et nous avons des prestations de services supplémentaires pour ces mêmes 52 000 euros. Il s'agit en fait d'une réévaluation du montant des dégrèvements que nous allons obtenir grâce à un cabinet qui nous a assistés dans l'obtention des dégrèvements concernant la taxe foncière que la ville, puisque la ville aussi, paye des taxes foncières sur ces bâtiments, sur ces établissements. Et entre 2006 et 2011, ils ont réussi à obtenir des dégrèvements pour 511 759 euros. Donc on avait déjà connaissance du fait qu'il y avait des dégrèvements, mais pas à cette hauteur-là. Donc nous comptabilisons des recettes exceptionnelles pour 52 154 euros, qui vont s'ajouter donc à la ligne autres recettes exceptionnelles qui avant étaient à 94 000 euros et qui passent donc ici à 146 355. Des dépenses, donc prestations de services, c'est 52 154 euros puisqu'il faut rémunérer, la société qui nous a assisté là-dedans. Il faut savoir que la Ecofinance était rémunérée sur la base de 38% des économies constatées, plafonnées cependant à 89 900 euros. Donc ça nous a coûté 89 900 euros et nous a rapporté 511 000 euros. Au niveau des documentations générales et techniques, nous avions sous-évalué lors de la constatation du budget le montant de Argus Press. Donc nous le réévaluons ici de 17 000 euros. Et en revanche, nous allons baisser le montant. Nous avions prévu 334 000 euros de toute façon en dépenses imprévues. Il nous en reste à ce jour, du coup, pour finir l'année, 317 513 euros.
Y a-t-il des questions? Oui. Oui, monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi on met en dépense 52 000 alors qu'on avait sous-évalué de 52 000 la recette. Combien est-ce qu'il y avait au départ de prestations de services? Parce que c'est quand même surprenant. Vous annoncez un taux de 38% de charge pour le prestataire et là, en fait, on est à 100%.
Oui, nous n'avions pas sous-évalué la recette uniquement de 52 000 euros, mais là, pour équilibrer cette décision modificative, on n'a besoin que de 52 000 euros pour équilibrer. C'est la prestation de service qui est de 52 154, mais on aura des recettes mais qu'on touche au fur et à mesure, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne met pas le tout ici. Mais de toute façon, c'est plafonné, l'ensemble de la rémunération de Ecofinance est plafonné à 89 900 euros. Donc on va payer moins que 38% de ce qu'on a gagné.
D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc il y a des abstentions, des votes contre sur cette DM? Il n'y en a pas? Merci. Donc nous passons à l'approbation du compte administratif.
Oui, donc on rappelle que le compte administratif aujourd'hui, c'est celui de l'exercice 2011 qu'on va valider. Il regroupe toutes les opérations du budget primitif, mais aussi tout ce qui s'est passé en termes de décisions modificatives, comme celle qu'on vient de passer, mais qui concerne l'année 2012 et qui ont donc été autorisées préalablement par le conseil municipal. Monsieur le maire quittera la séance avant la mise aux voix du compte administratif, mais je peux déjà vous le présenter. Donc, vous saviez qu'en fin 2010, les résultats cumulés étaient au total de 4 088 000 €, dont 8 426 000 en positif pour le fonctionnement et 4 338 409 pour les investissements. Nous avons viré à la section investissement 2 686 000. Sur l'année 2011, nous avons réalisé un bénéfice tant sur la section des investissements de 1 754 000 que sur la section de fonctionnement pour 4 081 000 €, ce qui nous donne un résultat 2011 de plus de 5 836 000 €, ce qui nous fait un résultat cumulé à fin 2011 de 7 238 640,1. Ce sont des chiffres qui sont plutôt positifs, qui tiennent compte d'un emprunt que nous avons réalisé, enfin un que nous avons encaissé en début d'année, un autre que nous avons encaissé en fin d'année, et qui restent des chiffres tout à fait bons pour supporter les années suivantes.
Très bien. Y a-t-il des remarques ? Merci. Monsieur Gilles.
Oui, monsieur le maire, tout d'abord une petite précision sur les demandes d'information, notamment la demande d'information de David Jourdan, qui voulait avoir communication du compte administratif. Et donc, ce que moi j'ai précisé, c'est qu'avant, on recevait ces comptes administratifs au format numérique. Donc, j'ai bien compris dans la commission du règlement intérieur qu'il était prévu qu'on retrouve des éléments en numérique. Mais depuis deux exercices, on n'a plus aucun budget, ni primitif, ni compte administratif, au format numérique. Et quand c'était au format numérique, on pouvait les envoyer aux quelques personnes à nos gens qui s'intéressent aux comptes. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que, bon, à défaut de le donner, vous pourriez, je pense, facilement le mettre en ligne sur Internet. Ça serait pas tellement, ça poserait pas tellement de problèmes, je pense. Alors, si on parle du compte administratif, vous nous faites une présentation plus tard du compte administratif, ou c'est... Non, on s'arrête là ?
On en a déjà beaucoup parlé au moment du budget 2012, alors, à moins que ce soit vraiment une demande générale, auquel cas on peut aller plus loin, sinon...
C'est vraiment...
Oui, sinon, puis on en a beaucoup débattu lors de la commission des finances aussi, mais voilà, je suis...
On recommence pas.
Alors donc on ne va pas recommencer les travaux de la commission
non,
des
non,
finances.
Non, mais c'était pour pas vous empêcher de faire votre présentation si vous comptiez le faire.
Bon, non, moi, vous inquiétez pas, on vous l'aurait dit.
Oui, je voulais faire une comparaison qui est toujours fort appréciée avec la commune du Perreux. Malheureusement, les comptes du Perreux ne sont pas en ligne, donc je ne peux pas le faire.
Ça, faudrait leur dire.
C'est vraiment... Non, mais c'est à coup du ministère des Finances. Ils ont été perturbés par les élections, sûrement. Alors, j'ai donc simplement repris le contrat de mandature, un autre exercice qui est aussi un moment agréable. Donc, je rappelle quand même que le contrat de mandature prévoyait 3% d'augmentation par an pour les dépenses de personnel, 2% pour les autres charges de fonctionnement, ce qui donnait normalement à peu près 2,50 sur l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. Bon, cette année, votre compte 2011, vous affichez 4,15% d'augmentation, donc vous dépassez encore largement le contrat de mandature. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'intégration du conservatoire, ce qu'on retrouve dans les dépenses de personnel, mais normalement ce qu'on a retrouvé en plus dans les dépenses de personnel, on devait le retrouver en moins dans les autres charges.
Alors, surprenant que vous ne l'ayez pas dit en commission des finances, cela.
Ah ben oui, mais...
Oui. C'est vrai
on est là pour donner son avis sur le compte administratif.
Oui, peut-être, mais il n'y a pas de public en commission des finances. C'est peut-être pour ça que vous restez muet pendant toutes ces commissions.
Mais je n'étais pas à la commission des finances.
Ces chiffres-là, monsieur Gilles, nous en avons parlé aussi, comme l'a dit Karine, lors de la présentation du budget 2012, puisque j'ai fait un résumé des engagements et tout en faisant un bilan à l'année 2011 devant vous tous, et vous n'avez pas non plus fait des remarques particulières. Vous
avez on n'avait pas le compte administratif à l'époque, hein, je vous rappelle. Vous étiez le seul à l'avoir.
On ne l'a eu que pour ce conseil municipal.
Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu normal que la personne qui est en charge de la gestion
non, mais
de la
c'est sûr que s'il y a des informations, c'est plus facile.
Des informations, non, parce qu'en général, quand on pilote une voiture, on regarde le compteur. Et vous voyez, nous avons des informations tous les mois. Heureusement, on ne marche pas à l'aveugle. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai forcément plus d'informations que vous. Mais si vous voulez venir dans la majorité municipale, moi je vous propose de travailler avec Karine Renouille, et là vous les aurez en même temps que nous.
Je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée.
Bon, ça dépend, vous savez. Vous voyez, ça, ce sont des choses que moi je ne prononce, des mots que je ne prononcerai pas, vous voyez.
Bon, je termine quand même, je vous donne ma position en tant que représentant de l'opposition, surtout qu'en plus.
Enfin, représentant. D'une partie de l'opposition.
Ah oui, mais l'autre partie est malheureusement absente ce soir. Donc, je dirais, les bonnes nouvelles du compte administratif, quand même, c'est le niveau des recettes. Je crois que ça, tout le monde peut s'en féliciter. Avec la reprise, effectivement, des droits de mutation, les montants de PLD, alors ça, les montants de PLD, ça a une contrepartie en termes d'urbanisme, mais je ne reviendrai pas sur ce sujet. Ce qui est quand même notable, c'est l'augmentation des impôts et des contributions directes, puisqu'on passe de 673 euros par habitant de contributions directes en 2010 à 707 euros par habitant. Donc ça fait quand même une augmentation de 5%. Alors je sais que les taux n'ont pas bougé, mais quand même pour les gens, ça veut quand même dire clairement qu'il y a une augmentation de 5%.
Non mais vous pouvez dire pourquoi ? Parce que c'est bien de
faire... Parce qu'il y a des revalorisations des bases, bien évidemment.
Non, mais bien sûr. Alors, si les bases augmentent, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au plan de la richesse et de la capacité d'un certain nombre de familles. En général, c'est comme ça que ça s'explique. Les taux n'augmentant pas, si les bases augmentent, c'est la valeur locative qui augmente. Et si la valeur locative augmente, c'est que la richesse des Nogentais augmente au fil des années. Et ce, pour des raisons peut-être dont on pourrait débattre à un autre moment.
Alors, le point le plus négatif, quand même, c'est l'augmentation des impôts, hein, puisque de la dette, puisque ben, je vous rappelle quand même que l'engagement, c'était de ramener la dette à 14 millions fin 2011, qu'on est maintenant à 22 millions 8. Vous avez fait 3 emprunts pour 5 millions 5 en 2011, ce qui représente quand même une augmentation de l'endettement de 23%. Donc, je dirais, la contrepartie, on commence à la voir apparaître, puisque les charges financières augmentent de 18%. Donc là, je dirais, signal d'alerte sérieux. Donc vous comprendrez, bien sûr, que avec tous ces indicateurs négatifs par rapport au contrat de mandature, je ne pourrais que voter contre votre projet, votre compte administratif. Alors, ça, c'était sur la position sur le compte lui-même. Après, moi, j'ai un autre problème. En regardant le compte administratif, j'ai essayé de comprendre le chaînage entre le budget primitif et le compte administratif. Alors, je voudrais être sûr d'avoir bien tous les documents. A priori, il n'y a eu que 3 décisions modificatives en 2011. Je pense que on est bien d'accord là-dessus. Alors, si je reprends ces données... Parce qu'il y a un compte quand même qui m'intéresse, puisqu'on a déjà parlé plusieurs fois dans cette enceinte. C'est le compte 65-31. Alors le compte 65-31, pour décoder, c'est les indemnités des élus. Et je voulais comprendre quand même comment on était passé du chiffre du BP au chiffre du CA.
On vous l'a expliqué.
Justement, moi j'ai un petit problème et franchement je ne comprends
mais,
pas.
Il n'y a pas que ce problème que vous avez manifestement.
Non, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais celui-là en particulier, parce que quand je regarde ce qui est inscrit dans votre budget primitif et dans votre compte administratif, je ne retrouve pas la même chose dans les crédits ouverts. Les crédits qui ont été ouverts au niveau du budget primitif, si je reprends les chiffres, donc indemnité des élus, 65-31, c'est de l'autre côté. Je vais retrouver le chiffre tout de suite.
Et nous n'allons pas reprendre les travaux de la commission.
Monsieur le maire, ce n'est pas les travaux de la commission. Le problème, monsieur, c'est la sincérité du compte administratif.
Je ne veux pas être désagréable, mais la dernière fois, je vous ai expliqué, j'ai passé quasiment une demi-heure à vous expliquer comment étaient calculées les indemnités des élus. J'ai donné le montant des indemnités de chacun des adjoints et des conseillers délégués. J'ai expliqué pourquoi il y avait eu un changement entre le réalisé d'une année et l'inscription l'année suivante, pleine année, d'une somme qui permet justement de couvrir ce qui avait été décidé, qui n'avait été appliqué qu'une partie de l'année précédente. Tout cela, je vous l'ai dit. Alors, je vais vous redonner les documents, mais nous n'allons pas recommencer le débat de la Commission des finances ici. D'accord ? Aujourd'hui, d'ailleurs, vient de sortir, il sera distribué demain, le compte-rendu du budget, enfin, la lettre sur le budget 2012, dans laquelle j'ai pensé, vous voyez, comme quoi j'étais un peu perspicace, puisque j'ai repris les explications concernant ce sujet très important, je vous l'accorde. C'est vrai, il ne faut parler que de ça, c'est très important. Ah, eh bien, oui. Non, parce que vous parlez des pavés chinois, vous parlez des indemnités des élus, mais vous oubliez de dire, par exemple, que la capacité d'endettement de la ville est de l'ordre de 4,43 ans, alors que nous avions annoncé dans le contrat de mandature qu'on visait 5,4. Ça, vous voyez, par exemple, c'est un chiffre que vous n'osez pas prononcer. Au même titre qu'en matière de dépenses de fonctionnement, constaté, nous avons une évolution inférieure à ce que nous avions annoncé dans le contrat de mandature. Mais ça, vous oubliez aussi. Alors, vous préférez vous appesantir sur 20 ou 30 000 euros de différence entre 2011 et 2012 dans le BP. Et ce que j'adore chez vous, c'est que vous comparez toujours des réalisés à des prévisionnels, ce qui est formidable. Hein, ce qui veut dire que c'est très dur de vous suivre. Hein. Nous, vous voyez, on préfère comparer un compte administratif à un autre compte administratif. Parce qu'un BP, le terme BP, il y a prévision. Et les prévisions, eh bien, en général, elles ne sont pas toujours, dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs, respectées. Madame Renouille.
Oui, moi j'ai juste trois mots à dire, parce que, voilà, on entend beaucoup de trucs. Moi, les signaux d'alerte de Michel Gilles, on les a eu en 2008, on les a eu en 2009, on les a eu en 2011, on les a eu en 2010 aussi. Voilà, à chaque fois, on allait droit dans le mur, on allait être obligé d'augmenter le taux d'imposition, on allait avoir un taux d'endettement monstrueux, on n'allait pas pouvoir investir, on allait... Voilà. Donc, ce que je peux juste dire, c'est que le taux d'imposition, pour l'instant, il est stable. Il est stable parce que ces comptes, on les regarde beaucoup, tout le temps, on travaille dessus. Les dépenses des conservatoires, par exemple, oui, sont des dépenses supplémentaires en personnel, oui, sont des dépenses inférieures en subventions qu'on donne, mais oui aussi, sont des recettes supplémentaires parce que les familles, avant ce qu'elles donnaient au conservatoire, maintenant, elles le donnent à la ville. Donc, faut pas oublier non plus cette partie-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que tout ça, on les regarde, on les suit, et ce qui nous permet aujourd'hui, moi, de vous dire qu'on va pas droit dans le mur, que l'année dernière, le résultat cumulé 2010, il était de 4 millions, que le résultat cumulé à fin 2011, il est 7 millions 2, que notre taux d'imposition aujourd'hui dans la ville, il est un petit peu inférieur à celui de la moyenne des villes de la même strate, et qu'aujourd'hui, chaque Nogentais doit 700 euros au titre de l'emprunt, alors que la moyenne de notre strate est à 1000 euros. Donc, je pense que des fois, une opposition, elle doit bien sûr dire quand les choses ne vont pas bien. Elles peuvent même nous aider à faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais tout le temps dénigrer le travail qui est fait par les services administratifs qui sont derrière moi, tout le temps dénigrer le travail qui est fait avec les gens qui sont autour de cette table et qui travaillent vraiment au moment où on établit en particulier le budget et qui suivent leurs comptes et qui font tout ça, et parallèlement nous dire que oui, vous vous êtes augmenté de je ne sais plus combien de pourcents alors que vous savez très bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a deux adjoints qui sont disparus et qui ont dû être remplacés par trois adjoints et que voilà, donc la somme du tout est peut-être un petit peu... Voilà, par trois conseillers. Bon, bref, la somme du tout est un petit peu supérieure, mais moi, personnellement, je n'ai évidemment rien perçu de plus. Et je trouve ça extrêmement malhonnête et un peu trop facile. Voilà, c'était mon coup de gueule ce soir et ça sera le seul de l'année.
Bien, parce que moi, j'enchaînerai pour vous rappeler que depuis 2001, j'ai volontairement décidé de ne percevoir que 30% de mon indemnité alors que je pouvais en percevoir 90%. Et ça, vous oubliez de le dire. Vous, comment ?
Il y a l'agglo.
Oui, mais oui. Il n'empêche que d'autres ne le faisaient pas, madame.
Bah, l'agglo, d'accord. Il y avait zéro rémunération.
Oui, oui. Pour les élus. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bah, mais oui, vous savez que toutes les fonctions que vous remplissez, en général, vous les remplissez. Et cela suppose une activité. Il n'empêche qu'avant. Et puis, je tiens à vous dire, madame de Becker, que la communauté d'agglo, c'est 2 ans. Et c'est rien d'autre, c'est tous les 2 ans. Hein. Et 2 ans sans indemnité quand vous n'êtes pas président. Donc on peut faire des comptes autant que vous voulez. Il n'empêche que l'indemnité du maire, qui pourrait être de 4 000 euros, depuis 2001, quelles que soient les vicissitudes,
je perçois 1300 euros. D'accord ? Et cette somme-là, elle est répartie au niveau des conseillers délégués. Au niveau des conseillers délégués, et les adjoints ont accepté de baisser leur indemnité depuis le début, puisqu'elle est de 1200 euros, alors qu'elle pourrait être de 1400 euros. Hein, c'est à peu près ça. Donc je ne veux pas. Ces procès d'intention, ils sont trop faciles, monsieur Gilles. Ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle, dans un certain nombre de pays, non pas de la démagogie, hein, mais un mot que je ne prononcerai pas ce soir, parce que c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Mais je tiens à vous dire que vous pouvez vous sourire, vous pouvez vous moquer, vous pouvez avoir une langue pointue, il n'empêche que les chiffres, ils sont là. Et que vous aurez beaucoup de mal à nous expliquer que la gestion de cette ville est une gestion qui vous inquiète. Elle n'inquiète que vous, a priori. Parce que vous êtes le seul à porter des jugements aussi négatifs en conseil municipal. Et puis, comment ? Et ce que j'adore, c'est que vous ne dites rien en commission des finances ou vous n'y venez pas. Alors, à quoi servent les instances qui sont là pour discuter, dialoguer ? Les questions que vous posez, j'ai répondu à ces questions deux fois de suite. Le document qui va sortir, la lettre sur le budget primitif, l'explique une nouvelle fois. Ce qui s'est passé, et je le dirai pour la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'en cours d'exercice, suite au décès de deux de nos collègues, j'ai été amené à demander à certains conseillers municipaux de prendre des compétences de conseiller délégué. Pour ce faire, comme nous avions inscrit au budget une somme qui était la somme pour l'exercice 2011, il fallait faire un mouvement de crédit au sein du compte 65 pour permettre de donner une indemnité à des personnes qui passent du temps au service de cette collectivité. Ce qui veut dire que, à la fin, que cette indemnité, par ce mouvement de compte à compte, a été assurée pour un certain nombre de mois. Donc le résultat est supérieur à ce qui avait été prévu dans le BP 2011. Et pour le BP 2012, nous avons mis sur une année pleine les chiffres qui étaient partiel sur l'année précédente. Point. Vous ne l'avez pas vu, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, dans la mécanique budgétaire, la possibilité de faire des virements de compte à compte au sein d'un même chapitre. Ça existe. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans pas mal de chapitres, y compris d'ailleurs quand on a besoin de rééquilibrer, par exemple, les dépenses en matière de bâtiment par rapport à la voirie, par rapport à d'autres points de ce genre. Voilà la seule explication que je peux trouver. Il n'y en a pas d'autre. À vous. Je vous en prie.
Non, mais bon, je crois que c'est pas la peine de débattre. Je crois qu'en tout cas, la démonstration est faite qu'il vaut mieux pas que je vienne travailler avec vous. Moi, je suis désolé, mais à partir du moment où au BP, on nous avait annoncé une augmentation de 0,5% sur cette ligne et qu'au CA, on retrouve une augmentation de 9,5%, le tout sans que ce soit jamais passé en décision modificative, moi, j'estime que là, quelque part, il y a tromperie. Voilà, c'est. Après, vous pouvez vous dire que tout ça est tout à fait normal, qu'il y a de très bonnes explications. Moi, je pense que sur des sujets comme ça, on se doit d'être transparent.
Vous avez regardé quand même ce qu'il y a dans ce chapitre. Il n'y a pas que les indemnités des élus.
Vous le savez. Dans chaque DM, vous nous faites modifications sur quelques milliers d'euros. Non, monsieur, vous auriez pu afficher cette modification.
Monsieur, ces mouvements au sein d'un chapitre, nous ne les passons pas tout le temps en DM. Hein. Surtout quand ce sont des chiffres de ce niveau-là, mais les DM, c'est quand on modifie, c'est le montant lui-même du chapitre qu'on modifie en DM. Vous m'excusez, il faut suivre un peu. Au sein d'un même chapitre, nous ne passons pas... Non mais écoutez, non mais en plus si vous vous moquez de moi,
vous me dites il faut suivre.
Ben oui monsieur, il faut suivre. Le nombre de remarques que vous nous faites, qui manifestement démontrent que vous avez une perception de la M14 qui est la vôtre et pas celle que normalement on applique. C'est une DM, elle est décidée, elle est passée devant le conseil municipal quand on veut affecter une part de nos provisions et quand on modifie le montant du chapitre. Mais au sein d'un chapitre, les mouvements, heureusement, on ne va pas réunir le conseil municipal quand on balance d'un sous-chapitre à un autre 10 000 euros, 15 000 euros ou 20 000 euros pour faire fonctionner les activités de la collectivité. Bon, il faut se rappeler de cela, simplement. Et vous pouvez, bien sûr, demander aux services financiers de vérifier à n'importe quel moment qu'il y ait une question ou pas. Vous pouvez venir vérifier tous ces mouvements. Ils sont libres d'accès à tout le monde, mais pas simplement aux conseillers municipaux, à tout habitant de la ville qui peut venir au service financier pour vérifier ses comptes. Ils sont ouverts à tout le monde. Bien, Madame Renouille, puisqu'on n'arrivera jamais à dire que ce compte administratif n'est quand même pas si mauvais que ça, puisque globalement, il nous permet quand même de réinjecter dans le BP 2012 une somme qui n'est pas négligeable. Hein. Mais enfin, ça, il vaut mieux que ce soit nous qui le disions, parce qu'il ne faut pas attendre des compliments de la part de certains qui sont autour de cette table. Et je sors. Les stationnements, je sortirai pour les deux. D'accord. Vas-y.
Donc on va passer à l'approbation du compte administratif pour le budget annexe des parkings, et monsieur le maire sortira juste après pour valider pour approuver les deux comptes administratifs. Donc, le compte administratif du parking, nous étions en résultat cumulé 2010 à 2 040 669, 73 000 euros pour l'investissement et 1 967 000 pour le fonctionnement. Les résultats 2011 ont tous les deux été négatifs, comme on en a beaucoup parlé lors de la commission des finances. Et le résultat cumulé est donc de moins 72 481 euros. Pour les investissements, en fonctionnement plus 1 221 000 euros, soit au total 1 149 453.
Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Il n'y en a pas ? Bien. Il y avait un autre rapport ? Non, hein, je crois. Non. Et après, c'est le résultat qui était affecté.
Voilà.
Pour le résultat, je peux être là pour le résultat. Alors, je vous laisse. Voilà. À tout. À toi de t'enchaîner.
Oui, donc on va d'abord approuver, si vous voulez bien, le compte administratif de la ville. Y a-t-il des votes contre ? Qui vote contre ? On ne sait pas. Donc, Michel Gilles, il y a combien de... Deux ? Deux, bon. On attend Madame de Becker. Bon, y a-t-il d'autres abstentions ? Donc on attend. Donc je reprends. Pour le compte administratif de la ville, j'ai pour le moment deux votes contre. Est-ce qu'il y a d'autres votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Voilà, donc pas d'abstention. Au niveau maintenant de l'approbation du compte administratif pour le budget annexe des parkings, y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. Donc, tout le monde est pour. On peut aller rappeler le maire.
Bien, ben je vous remercie. Donc nous passons au rapport 84 maintenant. Le 85 ou 84?
Il s'agit de l'approbation du compte de gestion, cette fois-ci du budget général, qui est l'équivalent de...
Attends, le 84, on ne l'a pas passé.
Alors, tout à fait. D'abord, exercice pour l'exercice 2012, c'est la détermination des résultats 2011. Donc, on a un excédent de fonctionnement capitalisé de 5 843 230,52 € et c'est tout à fait conforme aux résultats que nous avons repris lors du vote du budget primitif de 2012. Je rappelle l'affectation aux réserves compte 1068 pour 3 979 000 € et la constatation du déficit de la section d'investissement pour 2 583 648,75 €. Ce qui est conforme à ce que nous avons voté précédemment.
Très bien. Il n'y a pas de remarques particulières parce qu'on est cohérent avec ce qui a été fait il y a quelques instants. Pas d'abstention ni de vote contre, ou tout au moins, s'il y a des votes contre, il n'y a pas de vote contre, parce que sinon il serait cohérent avec le vote précédent. Hein. Bien. Il n'y a pas de vote contre et pas d'abstention. Alors le 85, c'est le compte de gestion.
Donc cette fois-ci, le compte de gestion sont les écritures qui sont conformes à celles du compte administratif pour 2011. Investissement plus 5 754 761, fonctionnement plus 4 081 845, et donc le total des sections font 5 836 606 €.
Des commentaires, pas de commentaires, pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Nous passons maintenant au 86, qui est 87, pardon, 87 pour la détermination des résultats. Ah ben ça, vous l'avez fait, ça.
C'est pour les parkings. Le budget annexe des parkings, détermination des résultats 2011, donc constatation de l'excédent de fonctionnement capitalisé 1 145 909 €, qui est conforme à ce qu'on a repris par anticipation au moment du vote du budget primitif de 2012, avec une affectation aux réserves compte 1068 76 024 84, et une constatation du déficit de la section d'investissement de 72 480,16.
Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Il n'y en a pas. Merci. 88, le compte de gestion du parking. Voilà.
Donc c'est à nouveau le compte de gestion qui est toujours conforme au compte administratif. Les résultats budgétaires de l'exercice donc sont présentés par le comptable à hauteur de, pour les investissements, moins 145 003 45, pour le fonctionnement moins 745 212 62, et le total des sections fait donc moins 891 216 €.
Très bien. Y a-t-il des remarques particulières? Pas d'abstention? Pas de vote contre? Merci bien. Le rapport suivant, le 89, que devait rapporter M. Pasternak, c'est en fait un rapport qui consiste à autoriser pour occupation du domaine public les canalisations d'eau potable et leurs accessoires, compteurs et branchements, puisque le CEDIF a revu une partie de l'exploitation. Et ce, depuis le début 2011, il était nécessaire de demander au conseil municipal d'accorder une permission générale de voirie au CEDIF et à son délégataire, surtout Veolia Île-de-France SNC, au titre de l'occupation du domaine public par les canalisations d'eau potable et de leurs accessoires. Voilà. Et ça, il arrivera à son terme, cette permission arrivera à son terme le 31 décembre 2022. Y a-t-il des questions, des commentaires? Il n'y en a pas. Madame Delannay, le rapport 90.
L'avenant numéro 3 et 4 à la délégation de services publics de la restauration collective avec avenance enseignement santé. Donc il y a déjà deux avenants qui ont été passés. Il y avait un premier avenant qui avait été approuvé le 18 octobre 2010, qui avait pour objet d'une part d'accueillir pour l'année scolaire une partie des lycéens du lycée Branly pour l'année scolaire 2010-2011, et d'autre part de mettre à jour l'annexe numéro 5 relative à la répartition des charges pour le restaurant communal et les structures petite enfance. Ça, c'est un rappel, hein. Et le deuxième avenant, il avait été approuvé le 27 janvier 2011. Il avait pour objet de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 1 du traité portant sur la dénomination du délégataire. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous demande de passer l'avenant numéro 3 qui porte sur la reconduction pour l'année scolaire 2011-2012 de l'organisation d'un point de distribution sur le site de l'école Marie Curie mis à disposition pour les élèves du lycée Branly. Et l'avenant numéro 4, donc c'est l'ajustement du solde de compensation des tarifs sociaux de 2010-2011. Donc la société rétrocède à la ville 85 356,14 euros. Donc c'est la modification de la base contractuelle du nombre de repas qui évolue donc de 310 000 repas à 350 637 repas. Je vais y arriver. Voilà. Donc, les autres clauses du contrat restent inchangées.
Alors, concernant l'avenant numéro 4, je profite de cette délibération pour... Non, l'avenant numéro 3, pardon, j'ai dit une bêtise. Pour vous dire que nous discutons actuellement avec la vice-présidente chargée des lycées à la région pour trouver une solution au problème de restauration scolaire qu'il y a actuellement à Branly et pour lequel nous mettons à disposition de la région des locaux de l'espace Marie Curie tous les jours pour, disons, accueillir près de 200 élèves en restauration scolaire sur le rue Smith-Champion. Nous sommes en train d'essayer de réfléchir à une solution pérenne, ce qui n'est pas facile à trouver, mais enfin on essaiera d'être prêt pour la rentrée 2013. Donc, on essaiera de trouver une solution qui devrait être mise en place pour la rentrée 2013.
Il faut savoir qu'ils nous ont demandé pour 2012-2013, pour la prochaine rentrée, de reprévoir encore une possibilité.
Pour 2012-2013, ouais. C'est ça. Mais il nous faut pas moins d'un an pour trouver une solution. Y a-t-il des commentaires, des questions, des abstentions, vote contre? Il n'y en a pas. Tout à l'heure, concernant le rapport relevant de la permission générale d'occupation du domaine public, je crois que je ne l'ai pas mis au vote. Donc je voulais simplement vous demander s'il y avait des abstentions ou des votes contre. Il n'y a pas sur ce rapport 90. Nous passons, Madame Gastine, maintenant au 91 et au 92.
Création d'emplois saisonniers pour la période estivale, afin de permettre d'assurer la continuité de l'activité au sein des centres de loisirs, des espaces verts, de la propriété, du stationnement payant et du pôle jeunesse dans les meilleures conditions possibles. Il est nécessaire de faire appel à des agents saisonniers. Il convient donc de recruter à temps complet 32 adjoints d'animation de deuxième classe pour les centres de loisirs, c'est-à-dire 22 pour le mois de juillet, 10 pour le mois d'août, 4 adjoints d'animation de deuxième classe pour le pôle jeunesse, 2 pour le mois de juillet, 2 pour le mois d'août, et 15 adjoints techniques de deuxième classe. Alors, 3 pour les espaces verts et 3 pour le service propreté pour le mois de juillet. 3 pour les espaces verts et la propreté, et 3 aussi pour la propreté pour le mois d'août. Et 3 autres pour la période du 1er septembre pour le service propreté. Et de même, un adjoint administratif pour le service du stationnement payant du 1er au 31 juillet. Ces agents seront rémunérés sur la base du premier échelon des grades d'adjoint d'animation de deuxième classe, d'adjoint administratif et d'adjoint technique de deuxième classe, indice 297 et indice majoré 302. Le recrutement de ces agents est prévu au budget primitif de 2012.
Merci. Y a-t-il des questions? Ce sont des mouvements. Il n'y a pas de questions, pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Nous passons.
Parce qu'elle vient de partir. D'accord. Mais juste avant que... À partir de maintenant. Donc, sur la 91, elle est là. Alors, 92, Madame Gassine.
Alors, création d'une vacation au sein du service logement. L'organisation actuelle du service logement nécessite de faire appel à un intervenant extérieur pour assurer certaines missions ponctuelles, telles que le traitement des demandes de logement social, l'organisation des commissions d'attribution, la gestion des relations entre les bailleurs, les locataires et la ville, la réception du public. Ces missions ne nécessitant pas le recrutement d'un agent à temps complet, il convient de faire appel à un vacataire. L'exercice de ces vacations est prévu pour une durée d'un an, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2013. Et la rémunération de ces vacations est fixée à 325 euros bruts mensuels, soit un coût total prévu pour le budget 2012 de 2275 euros.
Y a-t-il des demandes de précision ? Oui, Monsieur Gilles.
Oui, Monsieur le maire. Bon, d'habitude, je suis plutôt tenté de dire qu'il n'y a pas besoin de recruter au service logement puisqu'on a confié la gestion à Val-Office. Mais là, j'interviendrai plutôt dans l'autre sens puisque je vous ai alerté sur des problèmes de sécurité. Et je crois quand même que là, il y a matière à être très vigilant. Parce que on m'a informé que finalement Val-Office, sûrement suite à votre intervention, et je vous en remercie, a pris contact que ce matin, alors que l'arrêté de mise en demeure se terminait ce week-end pour refaire des travaux de sécurité en urgence. Je crois que là, il y a vraiment un peu de laisser aller dans la maintenance. Il n'y a pas que sur la résidence Foch qu'il y a des problèmes. J'ai été aussi visiter d'autres appartements à la demande de locataires qui se sont plaints sur l'état de salle de bain, de sanitaire, de cuisine. Et à chaque fois, on leur répond « Oui, mais il faut attendre la réhabilitation », sachant quand même que Val-Office était censé démarrer les réhabilitations au 1er janvier 2010 et que le recours ne peut pas servir de prétexte puisqu'il n'est pas suspensif. Donc là, je pense qu'au niveau du service logement, je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais il serait nécessaire, je pense, d'avoir un regard attentif sur la capacité à Val-Office à mieux répondre en termes de maintenance, mais avec les sujets de sécurité qui vont derrière, parce que ce qu'on m'a montré, notamment par exemple le fait que les extincteurs n'étaient plus contrôlés, et quand on signale ça à Val-Office, au lieu de les contrôler, ils les enlèvent. Ce qui veut donc dire que s'il y a un incendie, les gens sortent sur le palier, il n'y a plus d'extincteurs. Les balcons qui ne sont pas entretenus, les problèmes de sécurité électrique. Moi, je pense que là, on joue vraiment avec le feu. Et c'est un sujet sérieux qu'il faut essayer de faire prendre conscience à Val-Office.
Vous savez, je trouve formidable votre intervention, qui est d'ailleurs à la hauteur des autres interventions. Vous êtes à l'origine, avec un certain nombre d'autres personnes, d'un recours qui, s'il n'est pas suspensif, pourrait remettre en cause le bail emphytéotique entre la ville et Val-Office. Et vous dites, comme il n'est pas suspensif, dans le fond, il pourrait faire les travaux. Oui, il n'est peut-être pas suspensif, mais s'ils font les travaux et que quand votre recours sera jugé sur le fond, le bail emphytéotique, supposons qu'il soit annulé, Val-Office aura fait des travaux dans le cadre du protocole que nous avons signé, mais qui ne seront plus de sa compétence. Donc c'est trop facile d'un côté d'allumer le feu et puis après de crier au feu. C'est un peu votre technique. Et en ce qui concerne le problème justement dont vous avez fait état auprès de moi, alors je tiens à vous dire que je suis légèrement au courant quand même de cette situation, pour la bonne raison que si nous avons passé un bail emphytéotique avec Val-Office, c'est parce que l'office de nos gens n'avait pas les moyens de remettre en état autant d'immeubles que de problèmes. Et l'immeuble dont on parle, qui est le 147, je crois 7, est un immeuble qui nécessite une intervention qui va avoir lieu l'année prochaine, et qui est dans cette situation depuis environ 6 à 7 ans, parce que nous avons tenté, dans le cadre de l'office Nogenté, de faire un certain nombre de travaux d'urgence, mais au fond, il était difficile d'engager des sommes importantes que nous n'avions pas.
Alors, quand on me dit, on me parle des extincteurs, quand on me parle de tout cela, je pourrais vous donner le nom exact de la locataire qui passe son temps à inonder l'office de Nogent et Val-Office de courriers de tout type. Nous la connaissons depuis longtemps, je la connais depuis quelques années. Elle demande des travaux d'électricité dans son appartement. Il y a eu, bien sûr, une visite qui a entraîné la décision dont vous faites état, hein, l'arrêté du préfet. Cet arrêté n'a pas été contesté dans les délais par Val-Office, mais Val-Office a écrit au préfet du Val-de-Marne le 22 mai pour expliquer un point très particulier, parce que nous en avons reparlé pas forcément que pour le sujet que vous avez évoqué dans votre courrier. Val-Office a donc a signé une convention de partenariat avec la société Consuel, visant à obtenir une attestation de conformité électrique pour chacun des logements à requalifier. Et par conséquent, pour ces raisons-là, il s'étonne qu'une société qui s'appelle Promotelec fasse des prescriptions qui vont au-delà de la réglementation. Alors, Val-Office va introduire un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne, et malgré cela, j'ai obtenu de Val-Office une visite de ces deux logements très prochainement, puisque elle devrait être faite ou elle a été déclenchée, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est prévu, et un inspecteur de Consuel réalisera des diagnostics de mise en sécurité technique. À l'issue, Val-Office Habitat s'est engagé auprès de moi qu'ils exécuteront les travaux strictement réglementaires qui leur incombera. Et derrière, bien sûr, cela ne remet pas en cause la réhabilitation qui est prévue. Mais je dois dire que quand vous parlez des balcons, vous m'excusez, mais c'est un manque d'entretien sur un nombre d'années important qui a entraîné un certain nombre de faiblesses sur les balcons, et nous les avons consolidés à une époque, mais il faut refaire complètement la façade, l'isolation, et forcément consolider un certain nombre d'éléments qui sont défaillants. Donc il y a des maçonneries qui sont fissurées, et ça, ce sont des immeubles qui ont été construits dans une période, la période, je crois, des années 70-80, et je dois dire que, connaissant particulièrement bien le patrimoine de l'Office, ce sont des bâtiments qui sont plus récents, qui ont vieilli beaucoup plus vite que des bâtiments anciens comme ceux qui sont au 134, voire les HBM de la rue Anquetil et de la rue Théodore Honoré et Odile Laurent. Le type de construction de l'époque, c'est vrai, n'a pas permis d'amener ces bâtiments aujourd'hui à une situation un peu plus logique et assurant la sécurité que peuvent exiger les habitants de ces logements. Donc le processus est enclenché, mais c'est vrai que dans le plan stratégique patrimonial 2008-2013, Val-Office a pris l'engagement d'investir 1,5 million d'euros par an pendant 5 ans. Et ils seront affectés à la requalification, entre autres, électrique des logements avant relocation. Donc nous sommes sur le processus. Il n'y a plus que quelques semaines et quelques mois à attendre la mise en œuvre du plan. Mais en attendant, il y a le dispositif dont je viens de vous parler qui pourrait permettre déjà au moins une mise en sécurité si le passage de la société Consuel le prouve. Voilà. Donc le sujet est bien pris en compte. Y a-t-il d'autres remarques ? Il n'y a pas. On était sur le rapport 92. Alors le rapport 92, il ne vous a pas échappé que c'est une mission qui est confiée à l'ancienne directrice de l'office d'HLM qui
contrairement à ce que vous disiez, Monsieur Gilles, la ville est toujours en charge du service logement. On ne l'a pas, décentralisé auprès de Val-Office. Nous avons pour mission, en tant que ville, de prendre les demandes de logement, d'élaborer les dossiers, de les suivre et de mettre les demandeurs en face des bailleurs sociaux et pas forcément Val-Office. Nous les mettons en face d'un certain nombre de bailleurs privés comme 3F, comme d'autres qui sont présents dans la ville. Donc cette mission, cette vacation, consiste à ne pas embaucher et former quelqu'un alors que nous avons là une personne qui connaît bien ce sujet et qui peut, par le canal d'une mission quand même dont les vacations sont limitées à 325 euros bruts mensuels, nous permettre de faire fonctionner ce service logement dans de bonnes conditions. Donc on a voté, je crois, non, sur ce sujet. Il y a des abstentions. Vote contre, monsieur Gilles. C'est bien. Non, vous n'avez pas dit tout. Je croyais que vous aviez.
Et au contraire, j'ai dit que d'habitude, j'étais tenté de voter contre.
Ah, d'accord,
mais là,
d'accord.
Je pense qu'il est nécessaire, effectivement, que la ville ait un regard.
D'accord, très bien. Donc, le rapport est adopté. Alors, maintenant, nous repassons à Madame Delannay, c'est bien ça? Alors, allons-y pour le 93 et 94.
Donc, ça, c'est la revalorisation de la participation des familles au titre des études surveillées pour l'année 2012-2013. Donc les études surveillées du soir sont organisées par la commune au profit des enfants des écoles élémentaires publiques. Ce sont les enseignants qui assurent ce service, lequel donne lieu à une rémunération et au versement par les familles d'une participation. Le taux de l'heure d'études surveillées est fixé chaque année par l'Éducation nationale. Il a été porté à 19,45 euros par la note de service du 26 juillet 2010 du ministère d'Éducation nationale à compter du 1er juillet 2010, soit une augmentation de 0,52% par rapport au précédent taux. Donc voilà, on vous demande de... Vous voulez que je vous donne les chiffres, hein, ça va ? Bon.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Concernant maintenant le paiement en ligne.
Donc c'est la mise en place d'un service de paiement en ligne des prestations crèche, accueil de loisirs, proportion payante de cantine et atelier du soir. Donc la commune procède progressivement à la modernisation des modes de paiement mis à disposition des usagers. Les paiements effectués par chèque en 2011 entraînent, outre des délais importants préjudiciables à une bonne gestion de la trésorerie, un grand nombre d'impayés et surtout des coûts administratifs de traitement pour le trésor public ou la collectivité en cas de régie. En dehors des modes de règlement traditionnels, chèques ou espèces, un autre moyen de paiement a été mis à disposition des usagers, le CESU. Un nouvel outil pourrait être mis en place permettant un encaissement des paiements par la carte bancaire sur Internet. Le service sera accessible à partir du portail internet de la commune et permettra à l'usager d'effectuer ses règlements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service proposé est sécurisé et l'opération à réaliser est simple. Quelques clics suffisent pour régler ses prestations et obtenir un document attestant de leur paiement. Donc, la mise en place de ce service nécessite l'intervention d'un prestataire bancaire spécialisé dans le domaine du paiement par internet. La collectivité étant adhérente à Infocom 94, il convient de travailler avec leur fournisseur Monex. Ces paiements pourront concerner les crèches, l'accueil des enfants, centres de loisirs, maternels et élémentaires, les portions payantes des cantines et les ateliers du soir dans les établissements élémentaires et en périscolaire.
Ça, voilà. C'est ce qu'attendent beaucoup de familles pour leur faciliter la vie, sachant que les cartes de paiement opérationnelles en ligne sont quasiment toutes les cartes existantes, puisque on passe aussi bien de la carte Visa à Mastercard, à American Express, à Diners Club, etc. Non, non, mais je veux dire par là que c'est une palette de dispositions qui permettent maintenant de gagner du temps et puis surtout aussi de sécuriser ce type de prestations. Y a-t-il des... Madame Éloi.
Simplement une précision. Il y aura un seul paiement pour les prestations que vous indiquez, où il faudra, pour chaque prestation, faire le paiement en ligne. Est-ce que vous avez, est-ce que par exemple, si vous avez un enfant qui va à la, qui va au centre de loisirs, qui participe à la cantine, etc., est-ce que la maman, le papa va payer une seule fois par l'intermédiaire de ce que vous proposez, ou bien il faudra faire deux versements par internet?
Il faudra faire plusieurs versements par internet puisqu'il y a une facturation pour tout ce qui est restauration scolaire. Le périscolaire le soir, c'est des ateliers. Voilà.
On est obligé de voilà. séparer. Oui.
Voilà, mais bon, c'est une facture mensuelle hein, pour tout ce qui est. Par contre, tout ce qui est périscolaire, donc c'est une seule facture pour les le matin et le soir. Et puis il y aura la restauration, effectivement.
Notamment pour la restauration, puisque nous sommes en délégation de service public, il faut qu'on l'isole dans la recette. Est-ce qu'il y a une absence, des abstentions? Pas de vote contre? Merci bien. Alors, Madame Delannay, le rapport 95, en nous expliquant ce que veut dire...
Non. Donc c'est une convention d'habilitation informatique dénommée IMEEAG.